Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
Hello, hello, hello tout le monde. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, vous avez pu voir, il y a une nouvelle animation, c'est un petit peu différent, sur le compte à rebours. Et bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont déjà là, celles et ceux d'ailleurs. Salut Lord Gibus, salut Mariole, et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au café, comme d'habitude. Vous savez que quand je fais la matinale, en général, je suis pas très réveillé. En plus, j'ai les spots dans la tronche. C'est pour ça que j'ai la casquette aussi. C'est pour avoir un peu moins de lumière directe, parce que sinon, c'est un peu agressif. Mais sinon, ça va. Le moral est là, il y a pas mal de choses à dire en plus aujourd'hui. J'ai déjà repéré 2-3 petites actualités croustillantes dont il faut qu'on parle. Certains points, va falloir les éclaircir, notamment, je pense, à la 5G chez Soch. Oh, ça va être chiant à prononcer. Oh, il est 9h30 du mat et ils vont me faire prononcer Soch, chez Soch, plein de fois. Oh, ça va pas être agréable, ça. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça va être sympa, on va passer un bon moment. En tout cas, j'espère que vous... Enfin, moi, c'est sûr, je vais passer un bon moment. J'espère que vous, vous allez aussi passer un bon moment. Pas mieux, petit-déj, temps pourri, brouillard, petit vent frais, comme depuis 15 jours, et on est en juin. T'es de quel côté, Lord Gibus? Parce que nous, ici, à Paris, c'est l'été, ça y est. Là, vraiment, je suis short t-shirt, il fait grand beau. Là, cette nuit, j'ai dormi la fenêtre ouverte. C'était un régal. Un peu moins ce matin, quand il y a une pie qui est venue piailler juste en dessous de ma fenêtre, dès l'aube. Ça, c'était un peu moins cool. Calvados. Ah bah j'étais pas très loin là pour le week-end de la Pentecôte, Ascension, je sais jamais. Je suis passé du côté de Caen et de Ouistreham. Hello la team, hello Snake. Alors, est-ce que... Tac, où sont mes scènes? Qu'est-ce qu'on fait? La dernière fois, on avait parlé quasiment juste comme ça, et ça avait l'air de vous plaire. Sinon, il y a cette scène où vous voyez le site et vous voyez un petit peu l'info dont on parle aujourd'hui. Alors moi, ce dont j'aimerais parler, c'est du MetaQuest 3, là, aujourd'hui. Si on a le temps, mais il faut que... Il faut que je coupe... J'ai une réunion à 11h, donc je pourrais pas couper à 11h10. Donc si on a le temps, Windows 11, c'est le nouveau widget officiel. Nothing Fun 2, peut-être aussi les petites nouveautés. Tac. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'avais vu d'autres choses. C'est où? Où sont les... Où sont... Alors, Cowboy, on pourra peut-être en parler. Bon, je les retrouve pas là, mais sinon il y a... Ah si, il y a le forfait 5G de Soch. Oppo, il faut en parler aussi. On a plein de sujets à attaquer aujourd'hui. Donc, on va en parler. Dans l'auto, il y a la petite... comment elle s'appelle? Elle est où? Celle-là, la Topolino. La Fiat Topolino, on va en parler aussi. Pas très longtemps, je pense, mais on va en parler quand même. Il y a plein de choses à dire partout et c'est génial. Ouistreham ou Caen, tu étais à 20 km de chez moi, tu as dû avoir un bon week-end venteux. Ouais, en plus, Ouistreham, j'ai fait un tour de grande roue et je peux te dire qu'en haut, wow, même moi, ça m'a décoiffé. Tout le monde va bien, sujet au pot, le citron fonctionne, c'est, j'ai déjà dit. Alors, on commence par quoi? On va peut-être commencer par au pot. T'as raison, Snake, parce que c'est quand même un sujet assez fifou. Il faut savoir que depuis un petit moment, Oppo n'est pas sûr de savoir si la marque va rester en France. Ça va pas changer depuis 15 jours. Donc en fait, c'est plus que la marque, c'est un petit peu tout le groupe, c'est Oppo, Realme et OnePlus. Vivo, maintenant, on est sorti. Et il y a Titouan a mené une enquête où il a vu que bah, c'était pas ouf ouf. Alors en fait, l'histoire, c'est que Nokia et Oppo, enfin le groupe BBK, qui détient Oppo, Realme et OnePlus, sont actuellement en procès pour des histoires de brevets sur des. Je crois que c'est de la 5G, c'est du réseau 4G, 5G. Donc, Oppo, plutôt que de faire comme la plupart des gens et de payer ce qu'ils doivent à Nokia, ils auraient. C'est ça, les 5G Microwaves. Merci Gibus. Et ils auraient tout simplement décidé de dire bah, vous savez quoi? Allez vous faire foutre. Nous, l'Europe, c'est pas un marché qui nous intéresse plus que ça. Faut voir que, bah, eux, la plupart de leurs ventes, c'est notamment, enfin, c'est essentiellement en Chine. Donc effectivement, bah, les ventes européennes, c'est petit par rapport à ce qu'ils peuvent faire ailleurs. Donc bon, a priori, ils auraient pris la décision de partir. Et là, hier, coup de théâtre. Alors, où commence l'article? Et voilà, ça c'était le 16 mai. Il y avait ça. Donc on avait mené l'enquête, on avait vu que, a priori, ils sont vraiment en train de se barrer et au passage de se barrer sans payer personne. Donc voilà. Et là, hier, surprise, quand on se rend sur l'Oppo Store, est-ce qu'il y a oppostore.fr? Il n'y a pas le lien direct. Quand on se rend sur la boutique Orange, pourquoi Orange? Oppo, on s'aperçoit que bah, il n'y a plus rien. Ils ont tout coupé. Et effectivement, le directeur France, Yann Liu, s'en va également. Il a annoncé sur LinkedIn. Hop, ah bah c'est marqué là. Hop. Il a annoncé sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a une capture d'écran? Non. Est-ce qu'il y a une citation? Yann Liu, gestionnaire depuis 2022, qui était chez Xiaomi avant. Une personne assez incroyable, vraiment adorable. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et très 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 sympa. Pour avoir eu l'occasion de discuter avec lui plusieurs fois, vraiment très agréable. Donc Yann Liu qui a annoncé sur LinkedIn, nous avons été confrontés récemment à une situation inattendue, un coup dur qui échappe à notre contrôle. Cette épreuve a été difficile à la fois sur le plan business et sur le plan humain. Voilà, donc ça montre aussi le côté un coup dur qui échappe à notre contrôle. Je sais pas s'il parle de Nokia, mais ça m'étonnerait. Ou plutôt du fait que bah, Oppo China a décidé de tout couper comme ça et de pas vraiment communiquer correctement avec les équipes en France. Alors, tac, tac, tac. Il est parti au Luxembourg, Monaco ou la Suisse. Ok, je sors. Pourquoi il serait parti Il serait parti dans un paradis fiscal? Non, non, il est parti, il s'est fait avoir lui aussi, hein, je pense. J'ai réussi à acheter mon Find X5 Pro à temps. Oui, ah bah ça c'est. Après, faut espérer qu'ils maintiennent quand même le SAV. Je pense que oui, mais. La grosse question, parce que bah, le Oppo Store est coupé. Mais la grande question, c'est la boutique officielle. Allez, on va cliquer sur l'annonce, comme ça les fait payer. Hop, c'est la boutique officielle de OnePlus, par contre, bah, elle fonctionne, donc pas de souci. Avec les plans de la 5G sous le bras. Maintenant, puisque du coup, en fait, lors du bus, c'est pas une décision du directeur France, hein, lui, il subit comme tout le monde. C'est vraiment une décision de Oppo Chine, la maison mère, qui a décidé de mettre la clé sous la porte en Europe. Et en fait, toutes les équipes jusqu'au directeur, en fait, en France, n'étaient pas au courant. J'ai galéré, mais bon, je l'ai. Bah, profites-en, parce que c'est un très bon téléphone, le Find X5 Pro. Moi, je l'ai vraiment adoré. Je trouve que la prise en main, la qualité des photos, la fluidité, l'interface, c'était vraiment un très très bon téléphone. Et pour le coup, je suis très triste, personnellement, que Oppo s'en aille de France. C'était un. Enfin, c'est. On va pas commencer à parler au passé, mais c'est un excellent constructeur. Les téléphones Oppo, alors sur l'entrée de gamme un peu moins, mais sur le milieu de gamme ils sont compétitifs, et sur le haut de gamme ils sont vraiment très très bons, les Find X. Je trouve que c'est vraiment des très bons téléphones, et surtout c'est un constructeur qui pour moi reprend un petit peu la relève de HTC et de LG dans la création de téléphones, en fait, et de l'innovation dans la recherche de pas faire comme tout le monde, et d'essayer d'aller chercher le petit truc en plus qui fait que quand on a un téléphone Oppo, on a toujours au moins un petit truc que les autres n'ont pas. Et ça me rappelle un peu typiquement l'époque de LG. Rappelons que LG, quand ils faisaient des téléphones, ils ont fait le LG G6, qui était le premier smartphone borderless en Europe, ou en France, je sais plus. Il y en avait eu d'autres en Chine, mais ils n'étaient pas arrivés jusqu'à chez nous. Notamment chez Oppo, je crois, d'ailleurs. Ils avaient fait aussi le LG G5, qui était un téléphone modulable, avec la possibilité d'enlever la batterie et tout, ce qui à l'époque était à nouveau une révolution, vu que à une époque, rappelez-vous, mais on pouvait enlever la batterie de tous les téléphones. Qu'est-ce qu'ils avaient fait encore d'autre ? Ils avaient fait le LG G Flex, qui était en forme de banne. Allez, où est la caméra ? Hop. Qui était comme ça. La pub était horrible. La pub était vraiment horrible. Je sais pas. Allez, je vous la mets parce que. C'est quoi ça ? C'est Vincent. Coucou Vincent. Hop. Je sais pas si. Hop. Vous connaissez cette pub avec le LG G Flex. Alors, le test de Tekenko, de Jojol, de Marques. Big X. LG G Flex. Est-ce que... Non... quoi que c'était français, je crois. Alors... Elle est là. La pire pub de l'histoire, selon MacG. Il faut que vous la voyez. C'est quoi ça? Parce qu'il y a un adblock, là. Mettre en pause sur ce site, oui. Bah oui, en plus, MacG, il mérite. Hop, il mérite. Ils font du très bon travail chez MacGénération. Non, c'est pas la pub, c'est pas le bloqueur, qu'est-ce que c'est qui... Non, la vidéo n'existe plus, ok, tant pis. Alors, on va trouver autre chose, la pub dérangeante ici, c'est... Déjà, vous avez un aperçu, là, hop, c'est horrible. Je vous montre la publicité du LG G Flex, à l'époque. C'était vraiment la pire pub du monde. Donc là... Ils veulent appeler leurs potes. Déjà, ils amènent le cadre pour bouffer ensemble. Ok, on entend R. Je sais pas si je peux... C'est pas grave si vous entendez rien, Newt. T'inquiète pas, tu vas voir le problème. Voilà. C'est vraiment dérangeant. Voilà, donc c'est en fait le téléphone qui était un peu courbé, donc c'était en mode ah oui, c'est on a l'impression qu'il n'y a pas de téléphone. Et genre ça rajoute un peu de réalité au truc, c'est voilà, je vous laisse admirer ça. Tant pis s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave, hein. le son n'est pas important dans cette publicité. J'espère que vous appréciez ce grand moment de marketing. Oh, c'est horrible. Oh, je déteste cette pub. Ça fait partie des choses pour lesquelles j'aime beaucoup LG. Pas la pub, mais le fait qu'ils prennent des risques et qu'ils sortent... que j'aimais beaucoup LG, puisqu'il ne faut plus de téléphone aujourd'hui en France. Mais le fait qu'ils faisaient des téléphones un peu particuliers. Voilà. Et donc, pour revenir sur Oppo, qui, pour moi, est un peu un héritier de tout ça, c'est un très bon constructeur de téléphone, et OnePlus, je ne sais pas s'ils vont continuer... on ne sait pas s'ils vont continuer en France. On disait, là, la société Artec, qui exploitait la marque, ne serait pas dans la meilleure forme. Nous avons donc interrogé le service de presse, et la seule réponse qu'on a eue, c'est OnePlus est attaché à la France et il poursuit ses activités. Comme toujours, nos utilisateurs peuvent continuer à profiter des produits OnePlus, recevoir des mises à jour logicielles et accéder aux services après-vente. Après, ça, c'est un peu les réponses qu'on avait d'Oppo aussi il y a quelques semaines. Donc, Wendigo, qu'est-ce que je viens de voir ? Il y a toujours le point noir au milieu de l'écran. Chez nous, tu parles de quoi, Sir Newt ? Il y a un point noir sur au milieu de l'écran. J'en vois pas sur le retour. C'est étrange. Oui, chez vous. Me dis pas que toi aussi tu le vois pas. On est loin du début de OnePlus et des avant-premières chez Colette. Si, si, regarde bien. Au milieu de l'écran? Je vois rien du tout. Hier, il l'a vu. Mets un fond clair, tu verras. Ok, alors. Hop. Ah oui, mais si je mets ça là, vous allez avoir un retour... oui, non, puis en plus c'est con, parce que j'ai plus la page blanche. Ah ouais, c'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas genre les alertes ou un truc comme ça, un résidu de layout Ok, marrant. Je savais pas. Ok. Soch a été cité dans le sommaire. Oui, on va parler de Soch, et on va y en parler maintenant, dès maintenant. Alors, la panne, c'est où Soch? Parce que c'est vrai qu'on a parlé longtemps de LG et de Oppo, mais parlons de Soch. Donc Soch, après, on est quoi, on est en 2023, donc ça fait 3 ans que la 5G est disponible en France. Tous les opérateurs, mais vraiment tous les opérateurs, avaient lancé leur forfait 5G, que ce soit sur leur offre, sur leur gamme principale, donc Orange, Bouygues, SFR, pour prendre les opérateurs historiques, et même sur leurs offres dites low cost, c'est plus low cost ou sans engagement, mais en tout cas leur marque tierce, enfin l'autre marque, donc BNU et Red. Mais Soch, donc la marque low cost d'Orange, non. Et là, ils viennent enfin de lancer leur forfait 5G, d'activer la 5G qui est active chez Orange depuis 3 ans. D'ailleurs, la panne n'était pas que sur les appels il y a 2 jours, mais aussi data. Alors, c'est bizarre Wendigo, parce que justement nous on a essayé, on avait tous le problème d'appel chez nous, et pas de problème avec la data, et le communiqué de presse d'Orange précise bien que il y avait un problème sur les appels, mais pas sur la data. Alors, sur un opérateur utilisant le réseau Orange comme YouPrice, il n'y avait pas de panne. Ben justement, moi j'étais chez, je suis chez YouPrice, et alors... J'avais pas de panne, mais ça a mis beaucoup plus longtemps que d'habitude à sonner. J'ai eu un gros blanc, mais Orange n'a pas précisé pourquoi, enfin quelle était la raison de la panne. Ils ont juste dit, il y a une panne. Petit tips, si jamais vous avez une urgence et qu'il y a un souci comme ça qui vous arrive, plutôt que d'appeler les numéros d'urgence français, donc le 15, le 17, le 18, appelez le 112, donc le numéro européen, passe quoi qu'il arrive. Et là, en l'occurrence, le 112 passait si vous aviez un souci. Alors, la 5G arrive chez Soch. La 5G... Oh putain, ça va être chiant à dire. La 5G chez Soch, c'est un forfait à 20,99€ pour 140Go. Ce qui est OK, faut le dire. On est plutôt dans les normes du secteur. Je sais pas quoi... Je sais plus... Alors, chez SFR, enfin chez Red, ils sont à combien en 5G? 40Go, 9€, mais pour avoir... parce que 40Go en 5G, 5G, allez, on va prendre 100Go, voilà, donc c'est 16,99€ pour 100Go. On a quand même plus de data pour le même prix, et plus de flexibilité, puisqu'on peut rajouter à l'international, voilà. Mais ça reste SFR, Altice... Moi, personnellement, depuis qu'ils ont essayé de m'escroquer en boutique, j'ai promis que je ne refoutais plus jamais les pieds chez eux. Après, libre à vous de choisir. Et chez Bouygues Telecom, qu'est-ce qu'ils font chez Bouygues Telecom comme forfait 5G, forfait... Il n'y a pas les forfaits BNU. Ils les avaient réintégrés dans leur offre, non? Oh, oh, oh. Alors, BNU... Les forfaits 5G, voilà, 130Go, donc 10Go de moins seulement que Soch, c'est à 15,99€ sans engagement. Mais il faut l'avouer, le forfait, enfin le réseau de chez Orange est quand même bien meilleur que celui de Bouygues Telecom. En tout cas, quand j'y étais, j'étais un peu déçu du réseau de Bouygues Telecom, et quand je suis passé chez Orange à l'époque, je me suis rendu compte que la 4G de Bouygues Télécom à l'époque, parce que ça remonte il y a très longtemps, la 4G de Bouygues Télécom faisait aussi bien que la 3G de chez Orange. Salut Bad Max. Et j'ai pu le constater plus tard aussi, la 4G d'Orange était meilleure que la 5G qu'on avait pu tester chez certains autres opérateurs, donc bon, notamment chez Free. Quand le réseau Orange marche, car depuis avant-hier, il a eu un gros problème. Enfin, c'est pas depuis avant-hier, il a eu un problème. Il a eu un problème pendant 3 heures, un truc comme ça. Et pour le coup, c'était les appels. J'ai été vendeur chez SFR, les managers te poussent à essayer d'arnaquer les clients. Ils n'ont rien compris au marketing, vaut mieux fidéliser. Ouais, je sais, j'ai eu pas mal de potes qui étaient vendeurs chez SFR aussi. Et j'avais postulé, et ça a été un des pires entretiens de ma vie. D'ailleurs, vraiment, on déteste SFR à toutes les strates. Perso, la 5G ne m'intéresse pas du tout vu les devoirs en 4G. Les devoirs en 4G ? Les débits, ok. Les débits en 4G. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de gros débits la plupart du temps. C'est plus une question. En fait, ça va être une question dans quelques mois, quelques années à voir. À la fois sur la latence, sur des usages comme le cloud gaming, etc. Et surtout sur la charge des antennes. Parce que, en fait, vous allez voir que le débit en 4G chez vous va baisser petit à petit. Pas parce que les opérateurs brident votre débit pour vous faire passer à la 5G, absolument. Non, c'est juste que... plus il y aura de monde qui tire sur les antennes, et plus il va falloir se partager un petit peu la bande passante. Et du coup, vous serez de fait limité par la 4G. En passant à la 5G, le fait d'avoir des fréquences supplémentaires, ça vous permettra de mieux répartir la charge, d'autant que la 5G a des technologies, notamment comme le beamforming, qui permettent de communiquer directement plutôt que de faire des grosses zones. C'est beaucoup plus précis, et ça permet, sans compter les MIMO et compagnie, qui permettent justement de mieux gérer un grand nombre d'utilisateurs. Ils ont qu'à créer plus d'antennes 4G du coup. Je me demande dans quelle mesure ça vient juste de l'antenne. Mais oui, ils pourraient. C'est vrai. Chez Sush, j'ai du 200 Mbps en 4G. Après, je suis dans une ville de 30 000 habitants. On a pas mal d'antennes. Oui, c'est pas mal, ça. Mais de toute façon, encore une fois, le réseau Orange est toujours très bon. Salut Anthony. Le réseau Orange est toujours très bon, que ce soit sur la fibre et sur le mobile. Ils ont un excellent réseau et on a des très bons débits, quoi qu'il arrive. Et donc là, on a donc un forfait qui est un petit peu cher, mais on paye la qualité du réseau Orange. Mais maintenant, effectivement... comme l'a dit quelqu'un dans le chat, c'est que en face, il y a Uprice. Uprice, si on prend le first de 100 à 120 gigas, donc c'est 100 gigas, allez, on prend l'optimal à 130 gigas pour avoir quelque chose de proche. Hop, voir mon panier, et on rajoute l'option 5G. Donc on est à 14 plus 5, 19 euros. Ah ouais, non, ça, on économise que 2 euros en fait. On économise que 2 euros. Bon, après, est-ce que vous avez besoin de 140 gigas? Ça, je sais pas. Moi, personnellement, je suis passé sur... je crois qu'il n'y a plus le forfait. Mais c'était un forfait à 8,99 pour 60 gigas. Peut-être qu'il est caché. Non, on est déjà dedans. Ok, il y a déjà tout. Donc, bon. Je paye 8,99 pour 60 gigas. Et option 5G à 5 euros sur le réseau d'Orange. Il y a un petit truc qui me gêne chez Uprice, c'est qu'il n'y a pas la messagerie vocale visuelle. Et sur Android, si vous êtes sur iOS, elle y est. Et du coup, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas non plus ça qui va me faire payer 10 balles pour rester chez pour retourner chez Soch. Les meilleurs promos de l'année sur les iPhones... non, ça c'est les Nightbot. Petit XP, en 2019, j'ai gagné un accès à la finale du Tour de France en VIP aux Champs-Élysées. La 4G était saturée, je suis passé en 3G, j'ai pu avoir un réseau tellement vite que j'ai pu envoyer une vidéo de l'arrivée à mes amis. Oh, pas mal la 3G. Mais c'est vrai que quand ça sature, coupez votre 4G. Et c'est vrai que vous aurez plus de chances de fonctionner. Après, ça dépend ce que vous essayez d'utiliser. Si c'est les appels en 2G, c'est mort. J'ai data illimitée, mais Je n'en ai pas besoin. Data limitée chez Free, je suppose, du coup, Anthony. Messagerie vocale visuelle, c'est quoi ça? Je connais même pas. La messagerie vocale visuelle, en fait, c'est le fait de ne pas avoir à appeler un numéro pour écouter tes messages. Si vous êtes chez Orange, en général, vous appelez le 888. Chez SFR, c'est le 123. Chez Bouygues, j'ai oublié. Vous écoutez vos messages, etc. Alors que la messagerie vocale visuelle, en fait, c'est ce qu'on vous, c'est les messages de répondeur que vous pouvez écouter directement depuis votre interface de téléphone. Donc depuis l'application de téléphone sur Android ou sur iOS. Et vous voyez la liste de vos messages, vous appuyez sur play, vous entendez le message. Et là, du coup, chez YouPrice, je suis obligé d'appeler le 888 pour écouter mes messages, faire défiler les messages un par un, etc. Bon, c'est pas abominable, mais c'est vrai que je trouve ça plus sympa d'avoir la messagerie vocale visuelle. C'est trop bien quand tu l'as, tu vas dans ton appli téléphone et tu as un onglet messagerie et tu lis le message comme un enregistrement sonore. Voilà, exactement. Et du coup, tu peux le réécouter, tu peux, t'as le petit curseur qui te permet de naviguer dans le message, alors que quand t'appelles le numéro, tu peux rien faire en fait, tu peux juste passer, supprimer ou archiver. Je pense que c'est une option payante chez SFR. Je suis pas sûr, je pense pas. Messagerie vocale visuelle SFR. Android. Hop, parce que chez. Hop. Messagerie vocale visuelle indisponible. Oh, ils sont sérieux là. 2022. Pour activer la messagerie vocale visuelle, j'ai vu qu'il fallait appeler le 1023 pour un utilisateur d'iPhone. Nanana. Une fois l'application répondeur plus activée et l'identification de la ligne mobile effectuée, il faut environ une heure pour accéder au service. Si tel est le cas, je t'engage à contacter un conseiller. Directement dans l'application native de -22 ne fonctionnera pas. Ah bah effectivement. Ah bah, une raison de plus de ne jamais aller chez SFR. Alors, j'ai préféré prendre la promo Soch à 130Go, 16€. J'utilise mini 90Go par... 90Go. Pour rappel, la moyenne d'utilisation en France, c'est 16Go par personne et par mois. 90Go. Ah oui, en partage de co, oui, forcément, c'est via un ordinateur, c'est toujours un peu plus gourmand. Écoute, je vais installer, je vais voir, MDR, il y a une app. Faut faire 888 chez Soch et activer l'option une fois et ensuite ça marchera. Moi chez Soch, j'ai jamais eu d'option à activer, hein, c'était actif dès le départ. Salut Regan, salut Eximilitech, 16Go ça me tient 2 jours. Bah, c'est la moyenne nationale. Et en vrai, si je regarde, qu'est-ce que j'ai. Tac tac tac. Quelle est ma consommation? C'est où déjà? Réseau et internet. Profil film, ça doit être ça. Hein? Comment ça? Ah, mais on est le 1er juin. Oui, donc forcément, ça s'est réinitialisé. Est-ce que je peux voir ma consommation sur le dernier cycle? Voyons voir. Alors, j'ai changé d'opérateur au cours du mois de mai. Je suis passé chez YouPrice. C'est marrant, hein, vraiment, moi j'ai le nez. Je suis parti de chez Soch en me disant j'en ai marre d'attendre la 5G. 2 semaines après, ils annoncent la 5G. Je suis fort. Donc, ou alors peut-être qu'ils ont vu mes tweets rageurs où je les maudissais de ne pas avoir mis la 5G en me disant vous perdez un client. Et puis, ils sont venus, ils se sont dit oh non, on va pas perdre le rédac chef de Frandroid quand même. Et donc, ils ont activé la 5G. Non, on n'y croit pas. Mais bref, quand même. Est-ce que je peux avoir la date précise? Non, mais a priori, autour du 15 mai, je suis passé chez YouPrice et sur les 15 derniers jours, j'ai utilisé 7,34Go. Donc, c'est à peu près ça, sur moitié du mois. Et si on multiplie par 2, grosso modo, 15Go. Donc, je suis dans la moyenne. J'ai choisi le début du mois, mais c'est possible chez Bouygues, le rédac chef. Mais Omar m'a dit que c'était lui. Mais... pour la petite histoire, c'est parce que Omar, donc qui est rédacteur en chef adjoint, quand il a été promu à son poste, il a fait un tweet. Et il a oublié un mot dans son tweet. Il n'a pas fait exprès, hein. Mais il a dit « Oui, je suis très heureux de passer rédac chef. » Il avait oublié le mot adjoint. Et du coup, on se moque un peu de lui là-dessus depuis. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans, un truc comme ça? Ça fait quelques années, en tout cas. 5 ou 6 ans. Pour revenir au forfait 5G de Soch, vous allez voir, par contre, qu'il y a une douille. Parce que... Hop, non, on va pas accepter. On donne pas les cookies aux opérateurs. Si vous regardez les forfaits mobiles, vous avez le nouveau forfait 5G. Il est où ? Il est là, c'est le premier. Qui est là ? 140 gigas, 5G, 20,99€ par mois. C'est cool, mais offre valable pour toute nouvelle souscription. C'est-à-dire que si vous êtes déjà abonné, si aujourd'hui vous payez, comme je le faisais il y a 15 jours, Orange, enfin Soch, votre forfait à 26€ par mois, parce qu'en plus, il a augmenté d'un euro il n'y a pas longtemps, et que vous avez encore le vieux forfait, eh ben, mais il est où ? Ils l'ont enlevé. C'est marrant parce que j'ai vu sur Twitter, en fait, si aujourd'hui vous êtes déjà abonné et que vous voulez changer d'abonnement, vous allez dans votre compte, changer d'abonnement, etc., la seule offre qu'on vous propose, c'est justement celle à 26€ et avec de la 5G, mais pas celle à 20,99€. Faut résilier et refaire. Alors non, il faut prendre, ou alors il faut prendre un nouveau numéro, il faut créer une nouvelle ligne et vraiment effectivement résilier ton ancienne ligne, mais tu perds ton numéro. Donc c'est un peu chiant de devoir changer. Si tu veux profiter du portage de numéro, que tu pars et que tu reviens, en fait, les nouvelles souscriptions sont considérées à partir de 3 mois. Donc il faut partir 3 mois avant de revenir et de profiter des nouvelles souscriptions. Donc voilà, la 5G chez Soch, on l'attendait. Et il y a une petite question. Ah, je vais rouvrir quand même. Allô ? Non ? Bon, pas. Hop. Y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est quels sont les débits de Soch. Ils disent 3 fois plus rapide que la 4G. Mais est-ce qu'ils donnent le débit maximum ? Alors, débit maximum théorique de connexion jusqu'à 2,1 gigabits. Ok, non, c'est bon. Ok, donc ils mettent le débit complet, par contre, ce qui est une bonne chose. Parce qu'on avait peur que peut-être ils puissent brider le débit. Ils avaient fait un sondage auprès de certains membres de leur communauté pour savoir si les gens seraient prêts à payer 21€ pour un débit un peu bridé. Parce que c'est déjà ce qu'ils font, en fait, sur la fibre. Sur la fibre, avec leur box. Non, je veux pas. Je veux juste voir les offres. Bonjour. Excusez-moi. Je veux voir les prix. La boîte Soch, voilà. Internet est fixe. Et si on regarde, en fait, c'est limité à 300 mégabits. Alors qu'avec une Livebox 5, chez Orange, exactement la même ligne, vous pouvez monter jusqu'à 2 gigas, je crois. Via l'espace client, on pourrait dorénavant passer au nouveau forfait 5G Finally. T'es sûr, macOS X ? C'est parce que il est vraiment précisé pour les nouveaux abonnés seulement, hein, le forfait 5G. Et j'ai un ami qui justement m'a dit que c'était pas disponible. Il m'avait envoyé une capture d'écran. Alors, il m'a envoyé une capture d'écran. Elle est où ? Là. Hop. Non, c'est pas celle-là. Il y a le numéro. Donc je ne vais pas vous la partager. Mais c'est en plus c'est 70 gigas en 5G. Parce que à 25,99€. C'est vraiment vraiment de l'arnaque. Parce qu'ils ont gardé les 70 gigas d'avant. Et d'ailleurs c'était ultra frustrant. Vous êtes abonné à 26 balles par mois. Vous avez 70 gigas, et vous voyez qu'il y a un forfait là, il est là à 130 gigas à 16 balles, donc deux fois plus de data, qui coûte 10€ moins cher, mais à chaque fois c'est offre valable pour toute nouvelle souscription. Ça donne pas envie de rester chez eux, la fidélité n'est pas du tout récompensée, c'est ultra frustrant. Alors, je les screen, je suis encore chez Soch, via l'espace client, nanana. Bouygues sont très forts pour augmenter les prix tous les 4 matins, avec Orange et Free, il n'y a pas ce problème d'augmentation de prix chaque mois. Alors, c'était vrai, ils ont monté d'un euro quand même, Anthony, les forfaits, là, en début d'année. Donc, suivant leur dire, à cause de l'inflation. Mais tous les forfaits ont pris un euro. Chez Free, par contre, c'est vrai, à ma connaissance, ils n'ont jamais augmenté. 2 gigas partagés, ça suffit largement, aucun serveur t'enverra du 2 gigas de toute façon. Oui, après c'est la tranquillité. Livebox 6 en 2 gigas non partagés, sinon Regan. Pour les anciens clients, blablabla. Ah, qu'est-ce qu'il dit Nico ? Nico Lelouch, fais-moi la possibilité de basculer vers une offre 5G, mais seulement avec 70 gigas. Je suis pas sur la bonne fenêtre. Seulement avec 70 gigas et 25,99€ par mois, c'est honteux de pas proposer l'offre 140 gigas à tout le monde. Voilà. Donc, c'est ça. 70 gigas, 5G, 25,99€. Si vous voulez basculer aujourd'hui, que vous êtes déjà client, vous vous faites avoir. Alors, a priori, il y a option 5G chez Sush pour les abonnés actuels. La seule option, c'est de payer 26 balles pour 70 gigas. J'ai eu le même cas chez SFR, alors j'ai appelé ma conseillère et elle m'a fait une ristourne pour s'aligner, comme souvent. Oui, bah oui, faut voir avec eux, mais ça demande une démarche supplémentaire, alors que bah, finalement, ce serait tellement plus simple de proposer le même forfait à tout le monde. Ah ok, je savais pas pour la Livebox 6, je confirme, je peux basculer depuis quelques minutes et pas ce matin. Je viens de mettre une capture sur le Discord de Frandroid dans l'onglet Live. Sosh a bien mis le forfait 21€ pour la 5G, sans doute depuis ce matin. Ah, peut-être. Il faut voir, je sais pas si j'ai Discord sur cet ordi. Toutes les applications... Non, j'ai pas Discord sur cet ordi, donc je vais pas me connecter, parce que je sais pas sur quel compte pourrait être connecté. Cet ordi, voilà. Merci à Ximilitech. Sectionner un forfait dans la liste pour l'ajouter au comparateur. Après, est-ce que c'est t'es chez Orange, Sosh? À voir. Je vais garder ça. Quelle serait la meilleure offre avec la Suisse incluse? Je suis vers la frontière. Très bonne question. Sur les offres internationales, j'ai pas vraiment de réponse. Je connais pas les options là-dessus. Frais de changement d'offre gratuit, je suis chez Sosh. Vous voulez vraiment me faire mourir à dire des phrases comme ça? J'exagère pas du tout. Pas du tout, Drama King. Alors, on avait d'autres sujets à aborder. On va essayer d'avancer quand même un petit peu parce que y a...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a un planning un peu serré, comme je l'ai dit en début de live. J'ai cliqué pour changer de forfait et il m'a proposé le forfait 5G, d'où ma capture. Ok, ça marche. Bah, je vais. Tu sais quoi, Wendigo? Je vais le dire à mon pote tout de suite. Hop, peut-être rajouter l'offre. Je vais voir ce qu'il me dit. Personnellement, je pense que les chaussettes de... Aximilitech. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-sèches. Bref, tu es très taquin. Est-ce que on parle de la WWDC d'Apple et du MetaQuest 3? Chez SFR, je vais les appeler pour un souci, je ne sais plus lequel, je les avais appelés, pardon. Ils me le règlent, je reçois une facture exorbitante. 2 mois après, en fait, SFR s'était permis de souscrire à plein d'options sans mon accord. Je ne les ai pas payées, complètement malade chez SFR. J-4, le MacBook Air 15 pouces M2. Alors, on va pas parler de tous les MacBooks, enfin tous les Mac, effectivement, MacBook Air 15 pouces M2 a priori, il y aurait un nouveau Mac Studio aussi, donc il va y avoir pas mal de hardware. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les lunettes de réalité augmentée, réalité mixte, pardon, d'Apple, qui devraient arriver à la WWDC la semaine prochaine. C'est lundi, si je dis pas de bêtises. Il y a bien une date quelque part, non? Son casque dès aujourd'hui, quelques jours avant la WWDC. Il y a peut-être une date dans l'article. Mais on devrait avoir enfin le fin mot de l'histoire sur ces lunettes, sur les Apple Glass, dont on entend parler. En vrai, moi j'en entends parler depuis DuckDuckDC. C'est marrant, ce serait drôle comme truc. On en entend parler de ces Apple Glass depuis des années dans le milieu. Il y a des rumeurs et des rumeurs, et donc c'est sûr qu'ils travaillent dessus. C'était sûr qu'ils travaillaient dessus, parce que bah, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Hein. Autant de rumeurs, quand même, c'est beaucoup. Mais à mon avis, ils ont comme ils sont très perfectionnistes chez Apple, ils ont rebooté, à mon avis, le projet au moins une fois, si ce n'est plusieurs, en interne. Et donc, ils devraient annoncer la semaine prochaine, alors peut-être pas directement le casque, mais au moins toute la partie logicielle. Donc, à un moment, ils parlaient de Reality OS ou XROS, je ne sais plus lequel semble le mieux parti pour être validé. Et ce qu'ils font d'habitude quand ils annoncent un nouveau produit comme ça, c'est qu'à la WWDC, ils annoncent la partie logicielle. Et ça permet aux développeurs de commencer à jouer avec, commencer à développer des trucs dessus. Comme ça, quand le produit sort, il a déjà tout un écosystème applicatif qui fonctionne. Donc, on l'avait vu par exemple avec le passage à Opus ARM, avec le lancement du M1. Et donc ils avaient fait ça, à la WWDC, ils avaient annoncé le passage au M1, ils avaient annoncé Rosetta 2 pour pouvoir faciliter l'utilisation des applications sur cette nouvelle architecture, etc. Et les premiers MacBook étaient sortis en octobre, je crois, septembre-octobre, je crois que c'était octobre, juin. Pour le logiciel et octobre pour l'annonce du produit. Je suppose que ils vont faire la même chose. Apple a toujours fonctionné comme ça. Oui, voilà, au moins ça permet en quelques mois d'avoir quelque chose qui est utilisable déjà pour les primo acheteurs, parce que c'est vrai que il y a souvent des moments où on a l'impression de se faire avoir quand on est les premiers à acheter une technologie, parce que on achète un truc et puis on sait pas quoi faire avec, parce qu'il y a rien dessus. Il faut attendre que les développeurs investissent le marché dessus, et forcément ça prend un petit peu de temps. Mais là, c'est pas Apple, c'est MetaQuest, enfin c'est Meta, anciennement Facebook, qui a priori pourrait annoncer le MetaQuest 3 juste avant Apple. Alors que le monde de la tech attend enfin la présentation du premier casque de réalité mixte d'Apple, c'est Meta qui pourrait tirer le premier avec le lancement du Quest 3. Alors ce qui est marrant, c'est que en fait ils ont tellement tardé à lancer leur casque que ils ont raté la hype du métavers, etc. Alors qu'en vrai, le métavers c'était nul et ça reste nul selon moi. Je trouve que c'est nul. Je ne vois aucun intérêt à ça. Et c'est marrant que Apple ait raté, alors que ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur leur truc, ils ont raté les 6 mois où ils auraient pu le lancer, où à eux seuls, ils auraient pu faire fonctionner le métavers. Et en fait, maintenant, tout le monde a oublié ce que c'est que le métavers. Tout le monde ne parle que d'IA, et Apple, IA quoi ? Voilà. La tech n'a Dieu que pour l'IA depuis quelques mois, mais la tendance du métavers, essentiellement portée par la réalité virtuelle et plus précisément Meta, continue de vivoter. Tous les regards se tournent vers la WWDC d'Apple qui ouvrira ses portes lundi 5 juin. Donc c'est ça, lundi prochain. Mais là, un casque limité aux utilisateurs d'Apple, ça va être dur d'être rentable. L'iPhone est limité aux utilisateurs d'Apple, hein, et pourtant l'App Store est ultra rentable. Et où la firme devrait enfin lever le voile sur ses lunettes de réalité mixte, cela ne fait presque aucun doute. En attendant, c'est bien Meta qui est, en plus, je sais pas si c'est cette actualité-là, en fait, ils ont invité un site, alors un nouveau dépôt de marque, donc voilà, il y a les dépôts de marque, et voilà, ils ont invité un média qui s'appelle Upload VR à la WWDC. Donc ça montre qu'ils ont quand même l'intention de présenter quelque chose en VR sur cette WWDC. En attendant, c'est bien Meta qui pourrait créer la surprise, une prise en main qui fait monter la sauce. Le lancement du MetaQuest 2, ou Oculus Quest 2 à l'époque, puisqu'ils ont changé, de nom, ils ont fusionné, remonte à septembre 2020, il y a près de 3 ans maintenant. Autant dire que l'on attend de pied ferme une nouvelle version du casque bon marché de Meta qui s'est essayé entre-temps à l'ultra haut de gamme avec le MetaQuest Pro. Le MetaQuest 2, pour le coup, est un des meilleurs casques de par son rapport qualité-prix aujourd'hui à acheter. Le MetaQuest 3 a refait parler de lui quand le journaliste Mark Gurman, spécialisé dans l'univers Apple, donc journaliste chez Bloomberg, a publié ses premières impressions dans un newsletter Bloomberg du 28 mai 2023. Le journaliste affirme avoir pu essayer un prototype du casque connu sous le nom de code Eureka. D'après Mark Gurman, le MetaQuest 3 est beaucoup plus léger et fin que le Quest 2 de 2020. Le Quest 2 était déjà assez léger. Le nouveau casque utiliserait du tissu plutôt que du plastique pour l'attache au crâne. Ça, c'est une bonne chose, je trouve. L'article évoque aussi la présence de plusieurs caméras RGB plutôt que les caméras noires et blancs trouvées sur les anciennes générations. Le MetaQuest 3 devrait aussi apporter un gros gain de performance. Le plus intéressant avec le casque sera sans doute son prix. Le MetaQuest 2 est commercialisé à partir de 449 € en France, alors que le casque d'Apple pourrait dépasser les 3 000 $. Parce que Apple, c'est cher. Mais je pense que Apple arrive aussi avec tout un écosystème et pas mal de choses. Mais j'espère surtout qu'il y aura Beat Saber, parce que c'est la meilleure expérience en VR qu'on puisse avoir aujourd'hui. J'adore Beat Saber. Voilà. Mais c'est peut-être parce que j'ai passé aussi beaucoup trop de temps sur Guitar Hero quand j'étais jeune. 3 000 $, c'est quoi? Un PC gamer bien puissant, une petite voiture d'occasion? Oui, entre autres. Les thunes se font moins sur le matériel que sur ce qu'ils te vendent derrière. Ils se font pas mal de thunes quand même sur le matériel. Très difficile de parler du nez et de faire un live pendant 2 heures. Un événement surprise pour présenter le Quest 3 ce jeudi 1er juin, donc c'est aujourd'hui. Meta organise justement un événement dédié au MetaQuest autour du jeu vidéo. Le MetaQuest Gaming Showcase 2023 s'inscrit sans doute dans les conférences de jeux vidéo de l'été, à côté du PlayStation Showcase et du Xbox Game Showcase. Et il faut surtout, grosso modo, tout le bordel qui remplace le 3. Et il faut surtout s'attendre à des présentations de jeux. En amont de cet événement, Mark Zuckerberg a promis sur Instagram et Facebook de faire une annonce très spéciale à 16h. Enfin, dès 16h. La photo qui accompagne la publication sur Instagram montre Mark Zuckerberg qui regarde un objet placé entre ses mains. On peut remarquer que l'objet en question filme ses pieds grâce à l'écran de retour à l'arrière. La vidéo est visiblement en couleur, comme les caméras RGB du nouveau MetaQuest 3. Effectivement, on voit ses pieds. Meta devrait donc présenter son nouveau casque dès aujourd'hui, quelques jours avant la WWDC d'Apple. Ça va être intéressant de voir, parce que c'est certainement deux approches totalement différentes, comme on l'a dit. Hein. On a d'un côté un casque dont la génération précédente coûtait 449 €. L'inflation, tu coco, ça va certainement être à plus de 500 balles aujourd'hui, mais je peux me tromper. Et Apple, de son côté, qui, comme d'habitude, en a absolument rien à faire de la concurrence. Eux, ils sont là pour rouler sur le marché, ils font leur bise de leur côté. Coupe le micro quand tu te mouches. Désolé, je sais pas si le bruit est horrible. J'essaye de me reculer, mais je connais pas trop la portée du micro. Hello, Griffou, Geoffroy. Ça va, Geoffroy? S'il y a bien une chose qu'APPL, qu'Apple sait faire, c'est d'être rentable. T'inquiète. Oui, ça. Ils n'ont pas trop de soucis à ce niveau-là. Les thunes se font moins sur le matériel. Non, ça, je l'ai déjà dit. Je viens de publier une news sur un sujet qui te tient à cœur pour info. Un sujet qui me tient à cœur. Qu'est-ce donc? Pixel Watch 2, la future montre de Google, gagnerait grandement en autonomie. Yes! Alors, la Pixel Watch, elle est là, première génération. J'en ai essayé plein des montres connectées. Toutes les montres connectées que j'ai testées. Alors, à la limite, il y a la Fitbit Versa 2 que j'avais bien aimée, mais que je trouvais pas ultra agréable. J'avais changé le bracelet de base, était vraiment pas ouf. J'avais changé le bracelet, j'avais mis un bracelet en tissu qui me faisait des grosses plaques rouges sur le poignet. Et l'interface était quand même très buggée. Il n'y avait pas de compatibilité avec YouTube Music, entre autres, mais plein d'autres applications. Du coup, j'étais quand même très frustré par la Fitbit Versa. La Pixel Watch, c'est la première montre connectée qui correspond parfaitement à mon usage. Alors je sais qu'elle correspond pas, alors pas parfaitement justement, mais qui correspond bien à mon usage. Je sais que quelqu'un qui est sportif comme Geoffroy justement, qui va courir tous les 3 jours, lui il a besoin déjà d'une montre avec plus d'autonomie, un GPS, une meilleure précision, tout ça. Moi quand je fais du sport, c'est pas un niveau où j'ai besoin vraiment d'avoir des données ultra précises. Le fait que mes données, en fait, je regarde l'évolution des données plus que la donnée en elle-même, ce qui fait que ça me donne une indication. Donc vraiment, la Pixel Watch, c'est pour moi une montre qui allie à la fois les bienfaits de Wear OS, donc l'interface de Google, la compatibilité avec toutes les applications, etc., et tout l'écosystème Fitbit, et c'est surtout ça que je trouve cool, c'est le suivi des data, notamment data de sommeil, etc., sur l'application Fitbit, qui est vraiment ultra complète et qui est super cool. Mais la Pixel Watch a quand même quelques petits défauts, mais ça on le savait. Faut se rappeler que la Pixel Watch, un petit peu comme le casque d'Apple, ça fait 10 ans qu'on entend parler et que quand elle est arrivée, on s'est dit « Ouais, enfin, quelle surprise !» Mais au final, on a remarqué aussi dans ses specs que ben, elle avait un processeur, le rebord un peu trop épais. Alors oui, le rebord est effectivement un peu épais, mais au final, au quotidien, ça me choque pas parce que la montre est quand même belle. J'aime beaucoup ce côté petit galet brillant. Donc oui, les rebords sont épais, mais moi, je trouve qu'à l'usage, ça va. Et donc, du coup, la première Pixel Watch a un processeur qui datait... alors, je sais plus... je sais plus si c'est un processeur qui date de 2017. Et du coup, le cœur ARM date de 2015. Je crois que c'est ça. Hein. C'est 2018, voilà. Et donc, c'est vraiment... on sent qu'ils ont travaillé longtemps dessus et qu'au final, ils n'ont pas changé... ils n'ont pas fait évoluer les specs avec le changement. Et donc, ce qu'on attendait pour la deuxième génération de Pixel Watch, c'est justement un nouveau processeur qui soit digne d'un produit de 2023 et surtout qui soit pas, là je crois qu'il est gravé en 13 nanomètres, un truc comme ça, le processeur de la Pixel Watch, genre en consommation, c'est totalement débile, alors que maintenant on a des processeurs qui sont gravés en 4, voire moins peut-être. C'est ça, 4 nanomètres ici contre 10 pour celui qui est utilisé sur la Pixel Watch. C'est tout est dans l'actu. Ok, d'accord, j'ai compris, Geoffroy, je lis ton actu. Moi, je discute, hein, je suis là pour discuter, je suis là en live, c'est bon enfant, on discute, on est entre amis. Si tu me demandes de bosser, ok. L'article qu'a écrit Geoffroy, qui s'y connaît mieux que moi en plus là-dessus. Alors, on va plaire. Hop. En octobre dernier, Google présentait sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch. Il s'agissait alors d'une montre attendue depuis des années et dotée d'un processeur datant de 2018. Voilà, donc c'est grosso modo ce que je disais, sauf que moi j'avais dit 2017. Et encore, ce que je rappelle, c'est que le processeur lui-même datait de 2018, mais les cœurs utilisés étaient encore plus vieux. Donc vraiment c'était déjà en 2018 le processeur il était pas ouf. Sauf qu'il faut que je trouve un moyen de transférer mes données de Samsung Health. Ça c'est pas gagné parce que les transferts sur les montres connectées, je sais pas s'il y a des... Tiens, c'est une bonne question ça. Ça se saurait si on lisait les articles. Bah oui Ulrich. Ça se saurait si on lisait les articles, c'est comme nos lecteurs. Ça se saurait s'ils lisaient nos tests et nos articles. Moi, je fais exactement ce que font notre communauté. Je lis le titre et si c'est un test, je lis la conclusion. Voilà, c'est tout. Non, je déconne. Donc, un retard technologique qui n'a pas été sans apporter son lot de problèmes. Outre une fluidité en retrait par rapport à d'autres montres, la Pixel Watch propose une autonomie famélique pour une montre connectée et en ne dépassant pas la journée d'utilisation. Alors, petite astuce si vous avez une Pixel Watch. Personnellement, justement, on s'arrête au titre, on est aussi des lecteurs, exactement. Petite astuce, si vous avez une Pixel Watch, moi, toutes les nuits, je la passe en mode avion, en plus du mode sommeil, ce qui permet, la différence est flagrante, sur une nuit, au lieu de... La passer juste en mode sommeil, je perdais genre 13% de batterie, un truc comme ça, sur la nuit. C'est débile. Alors qu'en mode avion, je perds genre 6%, un truc comme ça. Donc il y a ça, et le fait que quand je vais me toucher, je me prépare le matin, je la pose sur son chargeur pendant une demi-heure, et du coup ça me permet de faire deux jours de nuit, comme ça, parce que la petite demi-heure de plus, ça fait remonter assez la batterie. Donc un retard technologique, ou de soit de la fluidité, une autonomie famélique pour une journée. Pourtant, Google avait le choix des composants sans même compter sur la dernière puce W920 de Samsung, équipant les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5. La firme aurait également pu se tourner vers Qualcomm, et c'est ce qu'elle compterait faire pour la prochaine Pixel Watch 2, qu'on attend donc en octobre. Une gravure plus fine pour davantage d'autonomie. Selon les informations du site 9to5 Google, le constructeur travaillerait d'ores et déjà sur une Pixel Watch 2 qui pourrait être annoncée dès cet automne, en même temps que les Pixel 8 et 8 Pixel 8 Pro. La principale nouveauté de cette montre résiderait dans le processeur utilisé, puisque Google délaisserait les SoC de Samsung pour s'orienter vers ceux de Qualcomm. A l'instar de la TicWatch Pro 5 annoncée la semaine dernière, la Pixel Watch 2 serait ainsi dotée d'une puce Snapdragon W5 Plus Gen 1. C'est vraiment des références maintenant chez Qualcomm. On adore. C'est tellement simple. Pour rappel, le principal intérêt de cette puce est sa finesse de gravure de 4 nanomètres contre 10 nanomètres pour l'Exynos 9110. De quoi assurer un bien meilleur rendement énergétique et donc une autonomie plus élevée à capacité de batterie et à performance égale. Selon 9to5 Google, alors que la batterie de la Pixel Watch 2 ne devrait pas être beaucoup plus grande que ce qu'on a aujourd'hui, Google constate plus d'une journée d'utilisation avec l'écran always-on activé. C'est une amélioration majeure pour un gain immédiat. Le modèle original était annoncé avec 24 heures d'autonomie sans l'écran always-on. Et je peux confirmer que effectivement, moi je ne sais pas si on voit, mais j'ai enlevé l'écran always-on parce que sinon c'est horrible. En fait, le truc c'est que c'est une montre qui... moi j'aime l'utiliser avec le suivi du sommeil, sauf qu'en fait si vous êtes obligé de la recharger toutes les nuits, bah c'est chiant. Ou s'il faut penser à la recharger avant d'aller vous coucher, bah c'est chiant aussi. Surtout que moi la manière dont je l'utilise, c'est que j'ai mis mon téléphone 100% en silencieux depuis que je l'ai. Je passe que très peu d'applications en notification sur ma montre, mais je sais que ma montre, quand elle... l'Apple Watch, c'est un peu plus, non ? Il me semble, sur les dernières générations, il me semble qu'elle tient plus, sans compter la Ultra, qui, elle, tient clairement plusieurs jours. Rien d'étonnant. Mais il y a des montres qui font beaucoup mieux. Il y a des montres, tu peux les utiliser pendant 5 jours, Newt, c'est pas un souci. Donc devoir la recharger, non, pas plus, sauf l'Ultra. Je laisse Geoffroy... confirmer ou infirmer cela un peu plus, oui. Une journée et demie avec Always-On sur la série 8. Avec l'Always-On, oui. Mais non, moi je parlais au global, pas forcément avec Always-On, sur une utilisation un peu comme celle-là. Hein. Outre cette nouvelle puce Snapdragon, 9to5 Google a également appris que la Pixel Watch 2 devrait reprendre les mêmes capteurs de santé que la montre Sense 2 de Fitbit, rachetée par Google en 2021. Outre le cardio-fréquence-mètre, cela signifie également que la prochaine montre de Google n'aurait pas de retard face aux montres précédentes de Fitbit. Rappelons que la première montre de Google ne profitait pas de la mesure d'activité électrodermale continue utilisée pour évaluer le stress. Cela devrait donc être le cas de la Pixel Watch 2. On devrait en savoir plus sur la Google Pixel Watch 2 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu dans le courant de l'automne, probablement au début du mois d'octobre, à l'occasion de la conférence Made by Google, qui servira également à présenter les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Voilà, j'ai tout dit, Geoffroy. J'ai lu tout ton article. C'est con quand ça s'arrête à midi quand même. Oui, bah oui, c'était un peu comme à la sortie du Galaxy S10. C'était un très très bon téléphone jusqu'à midi. Puis après, il n'y avait plus de batterie. Heureusement qu'il y avait la version plus. Merci, c'était parfait. De rien, Geoffroy. Apple annonce toujours 18 heures de marge, je crois, comme la 7, la 6, la 5, etc. J'ai une routine. Je me lève avec 93%. Je la charge pendant un petit café avant de faire du sport. À 100%, je m'en sers pour la journée. En entrant, je suis max à 50%. GPS, sport, vélo, notif. Je la charge quand je me fais à manger et mange, puis me couche après quelques activités le soir. Elle est encore à 100% sur ma Samsung Watch 2 active. Ouais, mais du coup, tu es obligé de la recharger deux fois, en fait, dans ta journée. Ça commence à... Eh, on se moque pas de mon S10e. Ah, désolé, moi, Nigo, mais c'est vrai que le S10e, ils avaient une autonomie assez catastrophique. Mais du coup, voilà, ta montre, t'es obligé de la recharger deux fois par jour. Même si c'est des petites recharges. Et c'est vrai que c'est le jour où on arrivera à trouver vraiment une montre capable de faire tout ça. mais sans avoir besoin d'être chargé dans la journée ou trop souvent, ce sera cool. Alors, Alpine pourrait devenir une marque chinoise ou presque avec ses voitures électriques. Le MetaQuest, on l'a déjà dit. Le Windows 11, je voulais en parler, mais plus tard. Moi, c'est la Topolino que je veux vous montrer. La petite Fiat. J'en discutais avec Vincent tout à l'heure en arrivant à la rédac. Mais voilà, on a la Citroën Ami se métamorphose. C'est bizarre comme titre. On dirait que c'est Citroën qui l'a fait. Mais on croise les doigts pour des montres avec batterie en graphène. Alors, les batteries en graphène, moi, ça fait bientôt 11 ans que je suis dans le métier. Ça fait bientôt 11 ans que j'entends parler des batteries au graphène qui vont arriver bientôt. Et qui sont révolutionnaires et qui peuvent se plier, donc on peut mettre dans les bracelets, etc. Aujourd'hui, on est encore avec des batteries au lithium sur tous nos appareils. Donc, lithium-ion. Donc, les batteries en graphène, moi, j'ai un peu perdu espoir pour le moment. J'attends de voir les avancées. Donc, parlons de la Fiat Topolino qui vient jouer sur le terrain de la Citroën Ami. La petite, alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Citroën Ami, on en voit pas mal. Hein. Moi, souvent, j'en croise souvent à la fois sur Paris ou quand je me déplace. Je disais que j'étais allé à Caen tout à l'heure. À Caen, je me rappelle plus en avoir vu, mais alors par contre, sur la côte, je suis allé à Fréjus il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que là-bas, il y en a pas mal. En effet, je regrette d'avoir loupé l'offre Samsung pour avoir le S23 Ultra à 800€ après ODR, plus une réduction pour avoir la Watch Pro 5 Pro à 80€ à la fin. ODR valable que si on a pris le S23 Ultra. À Marseille, il y en a beaucoup, vu que les transports en commun sont pas ouf a priori. Ouais, les transports en commun à Marseille, c'est galère. Et comme c'est une ville qui est très vallonnée, c'est difficile de se déplacer en vélo. En scooter, c'est aussi un peu galère. Enfin, c'est un coup à perdre la vie, parce que les conducteurs marseillais... Alors, les Marseillais, vous savez que je vous aime, hein, ma sœur est là-bas. J'y vais... très souvent, mais vraiment, apprenez à conduire. Faites quelque chose. Dommage, acheter du Samsung récent. Et du coup, ouais, c'est très vallonné, donc le vélo, c'est mort. Et la Citroën Ami, ça marche bien. Et puis en plus, s'il y a des courants d'air, c'est pas grave, il fait beau de toute façon. Et là, des courants d'air, en plus, va y en avoir sur la Topolino. Donc c'est des petites voitures sans permis. La Citroën Ami, je sais plus, elle est à 10 000, 12 000, Ulrich, si tu connais le prix de la Citroën Ami, 10 500. Donc, petite voiture sans permis à 10 500. Alors ça, c'est la version buggy. Je sais pas si la version normale est à 10 500 aussi. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Et en plus, c'est quand même la bagnole qu'on peut acheter à la Fnac. C'est trop drôle, ça. Je trouve ça génial comme truc. Tu vas à la Fnac, tu peux acheter 8 000€ voilà, pour la version normale, et c'est la version buggy qui est à 10 500. Et alors, effectivement, c'est 8K, une amie. Effectivement, ouais. Je confondais avec la. C'était laquelle là qui était à 12 000 que Grégoire avait testé? Comment elle s'appelait? Dans le même genre, la petite noire là est pareil, elle avait pas de porte. Concurrente Citroën Ami, je vais la retrouver. C'était pas la quête, la Ligier, je crois. Non, ça c'est celle que Vincent a testée il y a pas longtemps. Alors, il a acheté à la Fnac, non. Cofidis, Rêve de Vieux. Non, pas la Twizy. La Twizy, elle est vieille. Kate, Ellie. Ah, la Biro. Ouais, c'était ça, c'était la Biro. Estrima Biro. Celle-là, je crois qu'elle était sortie à 12 000, et donc là, apparemment, elle est à 10 776. Voilà, voilà. Donc elle coûtait plus cher que la Mi, et sans les portes. Et la Microlino, c'est vrai qu'il y avait elle aussi. Hop, la Microlino. Est-ce qu'on a un prix sur la Microlino? Pour confirmer, c'est un acompte. Peut-être qu'il y aura le prix en bas. Voilà, 12 500. Donc, c'est pour ça. On reste dans ces prix-là. C'est autour de 10 000, à plus ou moins 2 000. C'est donc 8 000 pour la Citroën Ami, qui est la moins chère, et entre 10 et 12 pour les concurrentes. J'ai une vraie question pour ces voitures comme ça. Quand tu déménages d'une ville à l'autre, comment tu fais pour la déplacer? Parce que tu prends pas une départementale avec ça. Tu roules à 50, hein, comment tu fais pour te déplacer d'une ville à l'autre avec un scooter? C'est un peu la même chose, c'est un peu la même question en fait que tu vas te poser. Ou alors tu mets le scooter dans le camion et c'est parti. Soit sur plateau, soit tu fais un long trajet en départementale. Alors t'as pas intérêt à faire un Nice-Paris sur ton déménagement parce que ça va être un petit peu long. À 50 km/h, c'est long, ça va prendre du temps. Et sinon, tu la revends dans ta ville et t'en achètes une de l'autre côté. Sur un plateau tiré par une voiture, soit tu la fais transporter sur plateau. Et donc, pour revenir à Fiat quand même, c'est quand même giga dangereux d'aller à 50 sur de la 80-90, et sans compter l'autonomie qui prolongera le voyage. Ah oui, non, mais ça, par contre, oui, l'autonomie... Vraiment, si tu veux faire un voyage avec ça, déjà, ton voyage, c'est ta semaine. Mais c'est une aventure, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. 50 km plus les recharges. Et donc, Fiat, qui a annoncé, même pas annoncé, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais lever le voile sur la Topolino, qui reprend la base technique de la Citroën Ami, avec un look néo-rétro, clairement inspiré de la Fiat 500 originale. C'est vrai qu'on a l'avant, un peu de la Fiat 500. Avec cette bonne bouille, elle a des bons yeux ronds, la petite protection qui lui fait une bonne bouche, on dirait qu'elle sourit. Je trouve qu'elle est vraiment, je trouve qu'elle a vraiment une bonne bouille. Elle est marrante à regarder. La question qu'on se posait que moi je me posais, c'est que je lui disais que j'avais l'impression qu'elle était un petit peu plus longue que la Citroën Ami, pas de beaucoup, mais un petit peu plus longue. Lui me disait que non, pas forcément. C'est peut-être la perspective qui veut ça. Il y a pas de porte. Alors justement, c'est une des questions aussi qu'on se pose parce que il y a pas d'infos à ce niveau-là. On ne sait pas si il y aura des portes en option ou pas. Là, en l'occurrence, sur le modèle qu'ils ont présenté, il n'y a pas de porte. Maintenant, c'est la Topolino. Ils l'ont présenté en Italie. On le voit sur la photo. C'est pas grave s'il y a un courant d'air. Hein. En Italie, on se met bien. Et en plus, ils ont l'habitude... en Italie, c'est plus scooter, mais c'est en Sicile où ils ont beaucoup de... Beaucoup de triporteurs comme ça, où il n'y a pas de porte. C'est des scooters à trois roues. Et avec un toit, mais pas de porte. Et effectivement, le problème, c'est le froid, la pluie. Mais bon, en Italie, oui, bien sûr qu'il pleut en Italie, mais on n'est pas à ça près, hein, ça va, c'est la pluie, mais il fait chaud. Et c'est plus rapide pour sortir de la voiture et parler plus proche avec l'autre conducteur. Dès que vous voulez insulter le conducteur qui est devant, au moins vous avez juste à passer la tête, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la portière. C'est parfait. Pour les Italiens, encore une fois, c'est génial. Je viens d'aller voir Fiat 500 Topolino sur Wiki. Je veux la voiture en illustration. Fiat 500 Topolino Wiki. Alors ça, c'est à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. Mais à mon avis, tu risquerais de vite déchanter avec. Les voitures sans permis VSP ont le vent en poupe. Et pas que en poupe, hein, vu qu'il n'y a pas de portière, c'est aussi sur les côtés. Surtout depuis l'arrivée de l'OVNI Citroën Ami, la voiture sans permis électrique qui a clairement dépoussiéré le marché. Elle n'est pas seule puisque Aixam propose des modèles électriques sans permis, tout comme Ligier avec sa nouvelle Mili, que nous avons pu essayer un peu plus tôt. La Citroën Ami est également déclinée en version Opel, répondant au nom de Roxy. Et voilà qu'une troisième cousine arrive chez Stellantis, grâce à Fiat cette fois-ci. Voici donc la Fiat Topolino, présentée très succinctement dans un communiqué de presse. Le nom n'est pas choisi au hasard, puisque la toute première Fiat 500 essence des années 30 était nommée ainsi. Celle qu'on a vue sur Wikipédia à l'instant. J'aime ces voitures à l'ancienne. Bon, on y colle les sièges modernes dedans et tout. Ouais, il y a pas mal de choses à changer par contre, parce qu'effectivement, niveau confort, c'est pas la même chose. Niveau sensation à l'intérieur, c'est pas la même chose. Parce que, par contre, sur ces vieilles voitures, dès que vous montez à 90, il y a tout qui tremble. Vous n'avez pas besoin de regarder le compteur pour savoir quand vous êtes à 90. En fait, quand le rétro tombe, c'est que c'est bon, vous êtes arrivé. Il y a une vente aux enchères pour une 2 chevaux tout en bois, début de l'offre, 120 000 balles. Et elle est passée aux mines avec certif et carte grise. tout en bois, ça doit être intéressant. Je sais pas si t'as un lien, j'aimerais bien voir un lien avec une photo, j'aimerais bien la voir. Mais cette Fiat Topolino tourne totalement le dos au moteur à combustion interne, qu'il soit essence ou diesel. Fiat ne donne pas de détails, si ce n'est qu'il s'agit d'un quadricycle tout électrique. À n'en pas douter, la Fiat Topolino reprend la fiche technique de la Citroën Ami. La Citroën Ami à l'italienne, bon là on a du coup une supposition basée sur la Citroën Ami Buggy, donc ça c'est la Buggy, ah oui, on connaît pas le prix non plus. Et la date de commercialisation. Pour le moment, ils ont été vraiment très vagues sur la Topolino. Ils ont surtout montré sa tronche. Alors, vas-y, fais voir ça. Là, elle est trop belle. Oh, ça claque. Bon, alors par contre, faut passer le vernis tous les ans. Parce que sinon, ton bois qui pourrit, tu la kiffes, t'as deux chevaux à 120 000 balles. Mais trop, trop classe. Ça rend trop bien. Puis en plus, c'est trop bien parce que si tu fais une rayure, t'as juste à poncer, tu repasses un coup de vernis, et c'est bon, t'as plus de rayures, elle est comme neuve. Alors, par contre, comment elle passe les homologations, une certification? Enfin, genre là, tu te prends un mur, t'as pas le côté absorbant du plastique. Comment ils ont fait pour faire en sorte que ce soit OK? Niveau sécurité, je sais pas ce que ça donne. Entretien simple, un coup de vernis, et tir à bois. Ouais, c'est trop drôle. J'aimerais bien la voir, vraiment. C'était en métal fer blanc déjà, pas de plastique en ce temps-là. À l'époque, oui, mais aujourd'hui, même le crash test. Ouais, bah ouais, carrément. Donc voilà pour la Topolino. Il est 10h53, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous à 11h. Donc je vais pas pouvoir discuter de Windows 11, des nouveaux widgets officiels qui sont pensés notamment pour les développeurs. Ils ont fait d'ailleurs toute une interface pour les développeurs. Mais voilà, je vous laisse aller lire l'article que je voulais lire avec vous. Je crois que c'est Ulrich qui l'a écrit. Mais voilà, il y a un petit peu de nouveautés sur Windows 11. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que Windows 11 est vraiment très cool et que c'est vraiment de plus en plus cool. C'est un bon OS. Même s'il a eu un peu de mal à démarrer, c'était difficile de passer après Windows 10, qui était une très bonne version. Et je trouve qu'ils ont réussi à bien se rattraper. J'espère qu'avec Windows 12, ils vont quand même réussir à régler les petits soucis. Alors déjà, bon nombre de soucis qui sont réglés avec les Power Toys. Power Toys, c'est incroyable. Windows 11 supérieur à macOS. Alors moi, j'ai jamais aimé macOS, mais ça fait quelques années que j'ai pas réessayé. Il paraît que maintenant, c'est mieux. Faudrait que j'essaye. Mais si même Kassim arrive à bosser sur macOS, je pense que je pourrais. Je viens de passer à 11, ça va, ça fait le boulot, j'avais peur, mais tout marche bien. Ouais, tout marche bien, le côté performance, en fait, va pas gangréner les jeux. Sur des vrais tests, en fait, on voit que finalement, ça demande pas plus de performance. Vraiment, vraiment très sympa Windows 11. Est-ce qu'on raid quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en live actuellement? Si je vais sur Twitch Télé, est-ce qu'on a... il y a les numériques. Sinon, est-ce que moi, de mon côté, je vois du monde qui live? Hop. Oui, je sais que j'ai un rendez-vous. Frandroid, les numériques. Vous savez quoi? Je vous envoie chez la concurrence. Qui est-ce qui est en train de discuter? Ils discutent de quoi? Je sais pas de quoi ils discutent. L'énument live des rues de Taïwan pour le Computex. Ah, bah oui, ils sont au Computex. Ils ont fait le déplacement. Dans ce cas-là, lancez un raid et je vous envoie chez les numériques au Computex. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu ce qui se passe là-bas en direct de Taïwan. Passez tous une excellente journée, moi je vais filer, bon appétit à ceux qui vont manger dans pas longtemps, et puis à bientôt, vous avez un nouveau live, alors déjà vous avez Unlock cet après-midi à 17h, et vous avez un live, le live matinal demain matin, ça, comme tous les jours, et le live bon plan demain soir à 17h si je dis pas de bêtises, comme d'habitude, salut tout le monde.
Normally, being a little extra can be a bit much.
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.